Bonsoir, calme précaire après les affrontements de ce mercredi près de Rougarie. C'est le deuxième combat durant cette période pourtant de cesser le feu demandé par Laurent Kunda après la MONUC. C'est dans ce contexte qu'une délégation américaine est arrivée à Goma. Cela suite aux déclarations de l'ambassade américaine qui avait annoncé sur Radio Okapi de vouloir suivre de plus près la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. La nouvelle trêve va-t-elle tenir? Quelles sont les conséquences de l'insécurité sur la vie politique au Nord Kivu? Ce sont les principales questions du thème de ce dialogue entre Congolais. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons reçu des réactions de nos auditeurs pour vous aider. Macho Machala de Boutembo dans le Nord Kivu pense que cette insécurité déstabilise non seulement la politique au Nord Kivu, mais aussi celle de toute la République. Oscar Mabelo de Boujala dans l'Équateur s'interroge en ces termes. Est-ce possible de dire le sort des autorités politico-administratives, des zones occupées par Laurent Kunda? Comment sont-ils traités par les insurgés? Comment ils s'y prennent? Nadine Kalombo, vous écrivez de Tshilenge au Kasai Oriental. La paix n'a pas de prix, dites-vous. Au nom de la paix et de la stabilité, que le gouvernement se mette sur une même ou autour d'une même table avec Laurent Kunda pour trouver une fois pour toutes la solution au problème de l'Est. Le député national et membre du bureau politique du PPRD, Dieudonné Jacques Bakungu, également ancien vice-gouverneur du Nord Kivu, est l'un de nos invités ce soir. En face de lui, Ruben Mikindo, président fédéral de l'UDPS Goma, et Pamphile Seba Ara, belge d'origine rwandaise. Il est spécialiste en prévention et gestion des conflits, analyste politique de GRIP. C'est un groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, un centre de recherche indépendant basé à Bruxelles. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission Dialogue Congolais.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Nord Kivu, calme précaire après les affrontements de ce mercredi près de Rougarie. Les deuxièmes affrontements durant cette période censée de cesser le feu. La nouvelle trêve va-t-elle tenir? Voyons d'abord quelle est la situation sécuritaire au Nord Kivu. Notre correspondant Jules Ngala est sur place. Il a été joint au téléphone par Claude Kanda.
Disons que pour la journée de ce jeudi, c'est un calme relatif. Nous n'avons pas connaissance en tout cas d'informations faisant état de quelques affrontements entre les parties dans toute la province. Il y a eu toutefois, comme vous savez déjà, des combats à l'arme lourde. C'était mardi soir, puis mercredi matin, avec des tirs légers. Les combats ont opposé les FARDC à des soldats insurgés ralliés à Laurent Kunda. C'était comme il y a une dizaine de jours dans le secteur de la paroisse de Rougarie à une trentaine de kilomètres au nord de Goma, sur la route de Rutshuru. Selon la MONUC, les combats ont duré environ 2 heures et la situation est redevenue calme selon la 8e région militaire.
Jules, est-ce qu'on a une idée sur l'origine des combats?
Les FARDC affirment que les tirs qui ont commencé vers mardi soir à 17h sont partis des positions tenues par les hommes de Nkunda sur les collines de Mbuko, à l'est de la mission catholique de Rougarie. Selon la même source, les hommes de Nkunda cherchaient à se frayer un passage à travers des positions tenues par les FARDC, d'où cet échange de tirs. De leur côté, les Nkundistes déclarent que leurs positions ont été attaquées par les loyalistes. Il faut rappeler tout de même, Claude, que c'est la deuxième fois en 10 jours que les partis au conflit se battent dans le secteur de Rougarie. Les combats du week-end du 20 au 21 octobre avaient provoqué le déplacement d'au moins 5000 personnes vers les localités voisines de Kibumba et de Bumba sur la route de Goma.
Nkunda a continué de se battre alors qu'il avait promis de laisser aller 500 de ses combattants au brassage avant l'expiration du nouvel ultimatum lancé depuis le 15 octobre par le gouvernement.
Nkunda a effectivement annoncé l'envoi de 200 hommes à Kiloliwe, localité située à environ 80 km au sud-ouest de Goma, en territoire de Masisi. Mais la MONUC a confirmé lors du point de presse hebdomadaire de ce mercredi à Kinshasa que pour l'instant, aucun soldat de Nkunda ne s'est encore rendu dans sa base opérationnelle mobile installée à cet effet à Kiloliwe justement. Mais que Nkunda remette 200 ou 500 hommes, cela ne change en rien sa capacité de nuisance puisqu'il a entre 3 000 et 5 000 hommes 30 jours sous.
Certains de ces hommes se sont rendus tout de même, Jules.
Tout à fait. Les FARDC ont annoncé que lundi dernier, par exemple, 95 Nkundistes se sont rendus aux forces loyalistes à Katané, près de Massissi Centre. Par ailleurs, le général Dieudonné Kayembe, lors de son séjour à Goma dernièrement, a annoncé également qu'au moins 250 Nkundistes étaient déjà regroupés pour aller au brassage. D'autre part, Claude, le samedi 27 octobre dernier, le chef de la milice Mai Mai des Forces armées pour la libération du Nord Kivu, FAPL, le général autoproclamé Kibamba Kasereka, s'est rendu au casque bleu de la MONUC à Kisharo après plusieurs jours de pression exercée conjointement sur lui et sur ses troupes par les FARDC appuyés par la MONUC. La MONUC a acheminé Kasereka par hélicoptère avec une trentaine de ses hommes à Goma. Kasereka a par ailleurs appelé ses combattants ainsi que les combattants de Laurent Kunda à suivre son exemple et à rejoindre sans condition et sans délai le processus de brassage.
Voilà, merci Jules Gala et Claude Kianza. Comment, Ruben Mikindo, vous êtes président fédéral de l'UDPS, Goma, comment vous expliquez la reprise des combats au lendemain du soutien annoncé par les États-Unis d'Amérique au président Joseph Kabila lors de sa visite à la Maison-Blanche?
Comme vous le savez, le problème de la guerre ici au Nord Kivu n'a pas commencé aujourd'hui et c'est tout que nous avons l'habitude de suivre toujours souvent sur la voie des ondes que les uns les autres ils décrètent soit un cessez-le-feu et parfois on se dit bon parfois ils vont passer à des rémissions, mais tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Je crois que la visite du président Kabila aux États-Unis aura donné peut-être un coup de plus pour que nous puissions cheminer finalement vers une paix durable, parce qu'à la fin, selon les informations à notre disposition, le président des États-Unis aurait demandé au président Kabila de trouver une solution au problème du Nord Kivu, mais pas avec la guerre. Et je crois que pour nous qui sommes les artisans de la non-violence, cela est une décision qui nous enchante tellement. Mais sinon, concernant ces fameux cessez-le-feu qui avait été décrété par Kunda, comme les FADC l'ont déjà fait aussi plusieurs fois, vous allez comprendre que jusque-là, chacun reste sur ses positions et à tout moment, tout peut se déclencher parce que les militaires, ils sont face à face, ils se regardent comme chien et chat. Par exemple, concernant les fronts dans les Rougaries, il y a une zone tampon qui avait été imposée par la MONUC dans cette partie du pays et vous allez voir que le FARDC, ils occupent la partie qui sur laquelle la route principale passe en allant vers Kiwanja et les autres ils se retrouvent dans pratiquement la bananerie et ça fait qu'ils sont côte à côte et à tout moment, tout mouvement, les autres peuvent constater d'un côté comme dans l'autre, ça peut toujours provoquer des escarmouches.
Oui. Donc pour vous, malgré la trêve, les différentes positions sur terrain, c'est là, en fait, qui, selon vous, explique un peu la violation, si on peut le dire, de la trêve. Monsieur le député national, Dieudonné Jacques Bakungu, vous êtes député national du PPRD, ancien vice-gouverneur du Nord Kivu. Vous, comment vous expliquez le non-respect, si on peut le dire, de la trêve?
D'abord, moi, je ne suis pas surpris. Et lorsque j'entrais dans les studios ici, j'ai lu quelque part là où c'est écrit les casques bleus, qui sont-ils? Que font-ils? Et je me suis posé certaines questions, je me suis dit en réalité, que font les casques bleus au Congo? Vous venez juste de suivre avec moi que il n'y a pas longtemps, d'ailleurs hier et ce matin, il y a eu des combats. Et comme vous voyez très bien, il y a les coulisses, d'après le terme qu'on a utilisé. Ils ont dit que nos positions ont été violées. Donc, au Congo, on accepte qu'il y ait des positions de Laurent Kunda. Alors qu'en réalité, lorsqu'il s'agit du Mai Mai Jackson, quand il était encore dans le parc national, la MONUC et les FARDC ensemble avaient conjugué les efforts pour faire partie de la zone du parc. Actuellement, j'ai encore saisi cela. On a dit que la pression qu'on a exercée sur Kassereka, une pression conjuguée des FARDC et de la Monique, a fait que Kassereka fasse la réduction. Maintenant, moi, je me pose une question. Je dis, comment la même Monique qui accepte de conjuguer avec les FARDC pour faire partir Kassereka, pour faire partir Jackson, aujourd'hui est tenté de créer des zones tampons pour laisser Kunda dans ses positions et les FARDC dans une autre position. Là, vraiment, je suis éclairé et je ne me retrouve plus.
Et mais vous n'avez pas encore dit pourquoi la trêve n'est pas respectée.
La trêve n'est pas respectée parce que Kunda, pour les gens qui ne les connaissent pas, peuvent croire à ce qu'il dit. Lorsqu'il dit que voilà, il y a trêve. Lorsque Kunda éprouve des difficultés, c'est tout ce qu'il demande. Pour se reconstituer, avoir d'autres renforts, avoir des munitions, et dès qu'il se sentira encore prêt à attaquer, il attaque les positions des FARDC. De tout temps, moi j'ai été vice-gouverneur de Kivu. Je n'ai jamais vu les FARDC organiser des attaques dirigées contre Laurent Kunda. Mais c'est chaque fois, lorsque Kunda se réveille et juge bon d'attaquer, il attaque.
Ouais, vous dites ça, mais les éléments de Nkunda ne diront pas, diront le contraire.
Bon, d'abord, quand ils disent le contraire, moi, je me dis, lorsque, dans un pays souverain, nous venons des élections démocratiquement organisées, qu'on accepte qu'il y ait des positions de Nkunda et des positions du gouvernement, c'est là où je n'arrive pas à comprendre.
Oui, mais c'est une réalité. Mais pourquoi ce n'est pas respecté, la trêve? Parce que c'est une réalité, ces positions, hein. C'est un fait.
Bon, moi je vous dis que la trêve n'est pas acceptée parce que lorsqu'un Kunda se sent fort, il attaque. Et lorsqu'il est affaibli, est-ce que vous pouvez prendre compte, par exemple, je vais vous donner le cas seulement de Mouchette. Lorsque le président de la République est arrivé à Goma, il a accepté la trêve. À l'heure où nous sommes ici, les FARDC n'ont jamais attaqué les positions de Kunda au niveau de Mouchak.
Ça vous engage, c'est vous qui le dites en fait.
Moi je l'ai dit parce que même la Monique n'a pas encore enregistré des combats de niveau.
Non, qui a commencé le premier, ça c'est...
Bon, même du côté de Rousseau, vous voyez que les mêmes Kunda ouvrent des hostilités au niveau de Rousseau, mais les FARDC ne les ouvrent pas au niveau de SAC. Là où il se sentait être fort et capable d'amener un tir Kunda.
Oui. On va donner un peu, on va demander à Pamphile Seba Ara. Vous êtes belge d'origine rwandaise, mais vous intervenez beaucoup plus en tant que spécialiste en prévention et gestion de conflits, parce que vous êtes analyste politique de GRIP, c'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, un groupe de recherche indépendant qui est basé à Bruxelles. Comment vous expliquez la trêve et puis tout le temps, par deux fois, la trêve a été violée, ce sont les combats qui ont repris, même des combats qui reprennent après le soutien affiché par les États-Unis à Laurent Kunda et plutôt au président Joseph Kabila. Comment vous expliquez cela?
Oui, je pense qu'il est peut-être un peu difficile en fait non, d'expliquer pourquoi la trêve est rompue, parce que comme vous l'a dit votre correspondant, il y a parfois en fait, des accusations mutuelles sur qui a commencé, en fait, qui a violé la trêve. Moi, je dirais plus, la trêve, c'est un moment donc, où les différents protagonistes s'accordent, acceptent en fait donc, de suspendre les hostilités pour, je suppose, essayer de trouver une autre solution. Moi, la question qu'on peut se poser plutôt, c'est est-ce que la trêve qui avait été acceptée jusqu'à présent, est-ce que les différents protagonistes, en fait, ils l'utilisent pour trouver des solutions aux problèmes? Parce que la trêve, c'est quelque chose de provisoire. Donc, comment, en fait, trouver des solutions aux problèmes qui se posent? Je crois que c'est une des questions fondamentales. Parce que la trêve, donc, c'est une suspension des hostilités. Pourquoi elle est rompue? Je pense que c'est que dès qu'il y a un problème, donc au niveau du respect de la parole donnée, donc au niveau des différents protagonistes.
Oui. Merci. Donc, vous n'êtes pas surpris non plus, un peu comme l'a dit Dieudonné Jacques, mais évidemment, les arguments ne sont pas les mêmes. Pour vous, évidemment, vous êtes au moins d'avis que les uns et les autres s'entre-accusent, Mais bref, le fait est que la trêve n'est pas respectée. Comment arriver à une solution? Mais nous allons plutôt voir dans ce calme précaire après les affrontements de ce mercredi près de Rougari, les deuxièmes affrontements en 10 jours en cette période pourtant de cessez-le-feu. Quelles sont les conséquences de l'insécurité sur la vie politique au Nord Kivu? Nous abordons cette question dans la deuxième partie de ce dialogue en congolais. Nous sommes toujours avec nos invités, Dieudonné Jacques Bakungu, député national PPRD, ancien vice-gouverneur du Nord Kivu, Ruben Mikindo, président fédéral de l'UDPS Goma, et Pamphile Seba Ara. Il est spécialiste en prévention et gestion des conflits au sein de GRIP, groupe de recherche et information sur la paix et la sécurité, un groupe basé à Bruxelles. Vous savez que vous pouvez encore réagir, chers auditeurs.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-8-999-222.
Nord Kivu, calme précaire après les affrontements de ce mercredi près de Rougari. Quelles sont les conséquences de l'insécurité sur la vie politique au Nord Kivu? Les autorités provinciales de leur côté déclarent poursuivre la sensibilisation face aux chefs de groupes d'armées nationaux et leurs combattants pour les pousser à se rendre au brassage. Pour Julien Paluku Kahongia, l'option de la pression militaire qui relève des autorités nationales ne l'empêche pas de rechercher la paix en tant que gouverneur. On écoute Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, au micro de Jules Galawamona.
Tous les messages que j'ai faits, c'est pour que tous ceux qui sont considérés comme Congolais, fils du Nord Kivu, puissent embrasser la voie de la paix. Ce sont des messages que j'ai lancés de partout. À Laurent Kunda, j'ai déjà lancé beaucoup de messages. J'ai été à Kitianga, il y en a qui étaient avec moi, j'ai été à Kilolire. J'ai fait des messages au colonel Kibamba Kasereka, j'ai fait des messages au colonel Jackson, comme gouverneur d'une province où je dois faire appel à tout le monde. Si quelqu'un vous amène 1000 hommes, 2000 hommes, 3000 hommes, qui hier, qui est à gauche, à droite, je vois que c'est un gars. Il faut que je couvre le jour de ça. Et pour moi, mais encore que les questions militaires, même si elles relèvent de la compétence du pouvoir central, nous avons quand même à donner aussi des petits conseils. Et que les conseils que nous pourrions donner à l'état-major, au ministère de la Défense, c'est de permettre à ce que celui qui vient de se rendre comme celui-là ne soit pas dans les mauvaises conditions pour permettre au moins de sécuriser la partie qu'il a occupée hier. Et donc là, je vous rassure, je vais mettre les batteries en marche pour que la province s'implique même dans les transports des troupes qui peuvent quitter la brousse vers le centre de brassage, parce que c'est la paix que nous recherchons.
Oui, Dieudonné Jacques Bakungu, député national, mais comme nous l'avons dit, vous êtes aussi ancien vice-gouverneur du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fonctionnement ou de la vie politique même dans le Nord Kivu suite à cette insécurité qui sévit dans cette province?
D'abord, cette insécurité a beaucoup fait beaucoup de méfaits au niveau de la province. Sur le plan politique, économique et social. Sur le plan politique, par exemple, le pouvoir provincial, j'ai entendu le gouverneur nous dire qu'il a été à Kitianga, mais il a été à Kitianga non pas comme gouverneur, mais il a été là comme un invité de Laurent Kunda.
Pourquoi pas comme gouverneur?
Parce que à ce niveau-là, ce n'est pas le gouverneur qui exerce le pouvoir dans cette contrée où Laurent Kunda est en train de diriger. Moi, je pense que quelque part, il y a un problème parce que toute l'entité, la province du Nord Kivu, n'est pas contrôlée par le pouvoir établi. Et à ce niveau, nous pouvons le dire sur le plan économique, les recettes, par exemple à Bounagana, n'arrivent pas dans les trésors publics. Si vous prenez par exemple au niveau de l'agriculture, la population ne travaille plus. Donc, dissipée, nous serons en carence parce que la population n'a pas cultivé. Les conséquences sont énormes. Si vous voyez, par exemple, sur le plan politique et social, on dit très bien qu'il y a des populations qui sont déplacées. Et lorsque ces populations sont déplacées, pour ne pas enregistrer ou même parler de femmes violées, des personnes tuées, moi, je pense que vraiment cette insécurité, s'il faut mettre fin à celle-ci, il faut connaître les causes. Et les causes, si on peut même embellir, essayer de chercher, voilà, dialogue ou quoi, mais les causes, à comme nous, le rancuna. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'on est en train d'aller vers les autres groupes, il y a peu, est-ce que le groupe Ekaterek a existé? Ça n'existait pas.
Mais c'est pas le rencontre seul qui viole, par exemple, hein, pour le cas de viol.
Bien sûr,
bien sûr,
j'ai dit que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, on ne peut pas défendre un groupe pour dire que non, pas ceci, mais il n'y a que ça. Moi, je peux vous dire que vraiment, si on veut résoudre le problème, il faut prendre le taureau par les cornes. Et lorsqu'on dit qu'on cherche des petits, on fait des petits conseils, je suis d'accord.
La persuasion, entamée par le gouverneur.
Tout à fait. Moi, je pense que la persuasion, elle est la première affaire. Parce que quand on dit que la paix n'a pas de prix, mais une paix que vous avez, parce que vous aviez combattu la voie, c'est aussi la paix. Et j'ai dit qu'il y a un adage qui dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Vous croyez que les États-Unis qui ont engagé des milliers de dollars pour aller combattre le terrorisme en Irak, vous croyez qu'ils n'avaient pas besoin de cet argent? Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux et qu'on se dise une fois pour toutes. Moi, je vais vous citer le cas de Katan, là.
Oui, concluez, parce que...
Ouais. Je vous cite tout cela. On est en train de les arrêter. Pourquoi on est en train de chercher une solution de complaisance pour le rencontre? Voilà ce que je peux dire.
Oui. Ruben Mikindo, vous êtes sur place. Vous êtes président fédéral de l'UDPS Goma. Vous intervenez depuis Goma. Comment vous vivez aussi? Vous confirmez ce que dit le député national, Dieudonné Jacques Bakungu, qui parle de la carence en produits vivriers, et puis le gouverneur qui n'arrive pas à contrôler, hein, à faire asseoir tout son pouvoir sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu avec la guerre.
Je crois que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de M. Bakungu, parce que à l'entendre parler, il veut la guerre. Et moi, ça m'étonne qu'un pasteur de son état, parce que je sais qu'il est en plus un pasteur qui peut demander à ce qu'on amène la guerre à sa population.
C'est là, il intervient dans le hein.
Une population qu'il a élue, et lui, il demande à ce que sur les nombreux milliers de déplacés que nous enregistrons aujourd'hui, dans les camps de Mugunga et partout dans les Rutshuru et Masisi, il demande à ce qu'on continue à faire la guerre pour je ne sais pas quel but. Vous savez, la province du Nord Kivu, c'est une province à problème. Et je crois que le problème, Laurent Kouga n'a pas commencé aujourd'hui. Et je crois que le problème, je crois que là, il est en train de décider le vrai problème. Moi, je crois que le vrai problème, et ça m'étonne, ça m'a toujours éclairé, ça vient de me sidérer, je suis même sidéré par les propos de Bakungu, quand il dit que pour lui, le problème, c'est Laurent Kouga. Mais Laurent Kouga a vu le jour, c'est pendant la période de transition. Mais le vrai problème, c'est la négligence, le problème des espérés. Moi, je crois que c'est ça le vrai problème. Et c'est à ce problème-là qu'on devrait s'y atteler pour chercher à cheminer vers la paix véritable. Parce que le problème de Laurent Kouga, c'est quoi? Kouga, c'est un fils du pays. Les espérés, ce sont des étrangers qui sont développés ici chez nous avec armes et munitions et c'est pas moi, argent et tout ce que vous voulez. Et depuis que la transition a commencé, moi je crois que c'est par là où il faut chercher les causes de l'insécurité actuelle. Nous avons été à la transition. La transition, il était prévu pendant la période de transition plutôt, il y avait des objectifs de la transition. Il fallait craquer les forces négatives. Il fallait organiser une armée, si vous voulez, préparer une armée républicaine intégrée. Il fallait que nous puissions aller vers la réconciliation nationale. Or, tous ces problèmes-là, on les a mis à l'écart, et aujourd'hui, on a présenté, même Bakungu, il est témoin, tous, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont dit, non, si vous allez aux élections, après les élections, vous aurez la paix. Et aujourd'hui, la population du Nord Kivu, comme du Sud Kivu, et de l'Est en général, a remarqué que les élus du peuple les ont trompés. C'est ça. Il y a les mensonges, c'est-à-dire on a trompé le peuple.
Non, vous
voyez. Et je crois aujourd'hui, uniquement,
Ruben,
uniquement,
oui.
Ouais,
Oui, Ruben,
je dirais ceci.
Oui.
Aujourd'hui, je crois que la solution est simple. Oh. Est simple. Si nous pouvons accepter vers le dialogue, parce que nous allons nous rattraper par rapport à tout ce que nous avons essayé de lider pendant la période de transition.
Oui, mais...
Il faut la réconciliation nationale.
Oui, Ruben. Oui, Ruben Mikindo, oui, avant de proposer d'abord les solutions, vous êtes quand même d'accord avec le député national de Dieudonné Jacques Bakungu quand il dit que vous vivez quand même les conséquences de cette insécurité sur le plan politique et économique, comme il a dit.
Là, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais ce sont ceux qui sont à la base, ce sont ceux qui ont demandé la guerre. Kabila, le président de la République, lui, il est passé par l'Afrique du Sud, il est passé par le Rwanda, et on a observé à un certain moment l'arrêt des hostilités quand on a fait le mixage. Ce sont les députés nationaux et les provinciaux qui sont montés au créneau, ils étaient presque sur le point de sortir sur Mundi, comme quoi ils ne sont pas d'accord avec le mixage. Or, pendant la période du mixage, il est vrai qu'il y a eu des déplacements, des populations, et à la fin, les opérations d'aujourd'hui, je crois que si le mixage avait mis sur la route près de 15 000, 20 000 hommes, aujourd'hui nous sommes en train de compter près de 750 000 déplacés. Et je crois qu'aujourd'hui, lui, des données, il n'est pas en mesure d'aller dans les camps de réfugiés et dire que non, voilà, vous nous avez dit, nous vous avons promis la paix, voilà, mais ça va, nous allons encore continuer à faire la guerre contre Kunda. Kunda, je dis que ce n'est pas pour moi, j'estime que ce n'est pas un problème majeur, et nous sommes sérieux avec tout ce que nous faisons. Et si nous acceptons de faire un dialogue sincère avec lui, parce que le problème chez nous, chez le Congolais, c'est la sincérité.
Oui.
Le non-respect des faits. C'est ça qui nous amène à cette situation.
Merci, Ruben Mikindo. Pensez, Sebara, vous, belge d'origine rwandaise et spécialiste en prévention et gestion de conflits, analyste politique au GRIP, groupe de recherche et information, d'informations sur la paix et la sécurité basée à Bruxelles. Il y a une autre ONG internationale, Crisis Group, que vous connaissez sûrement, qui propose en fait, qui dit carrément que en fait l'option militaire ne va pas réussir. Il faudrait plutôt trouver une solution globale au niveau régional. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, je pense que ce constat en fait est partagé par beaucoup d'observateurs. C'est que l'option militaire n'a jamais résolu en fait les problèmes conflictuels, surtout dans des pays ou des zones en fait où les causes en fait de ces conflits sont multiples. Donc à ce niveau, je partage cette analyse en fait de dire l'option militaire en fait permet de dissuader tous les acteurs qui ont tendance en fait à recourir à la violence, parce que et ces acteurs se rendent compte en fait que face aux forces gouvernementales, ils n'ont pas, disons, les moyens de faire face. Mais une fois en fait que cette dissuasion en fait permet par exemple de maintenir la trêve ou permet quelque part de garder le statu quo, il appartient, je pense, aux politiques de trouver des solutions durables. Et dans le cas donc du Nord-Kivu, je pense que la question que vous posiez, quelles sont les conséquences sur la vie politique au Nord-Kivu? Les conséquences sont multiples et sont considérables. Donc, et ne permettent pas en fait aux autorités provinciales élues et aux autorités administratives en fait de mener des politiques de développement, parce que on ne peut pas parler de développement en fait s'il n'y a pas une sécurité qui permet aux gens de vaquer à des occupations, aux paysans de cultiver leurs champs. Et l'autre conséquence, en fait, de la présence de ces milliers de soldats et des groupes armés, en fait, c'est la question de la prolifération des armes légères dans la région. Mm. Et là, notre centre travaille donc avec un certain nombre d'associations qui luttent contre ces armes à risque, donc notamment on a aussi voulu ce niveau, et on se rend compte que c'est une question capitale. Mais pour trouver des solutions, il faut des solutions politiques qui sont basés en fait sur une analyse générale donc des causes, des problèmes qui se posent, pour trouver des solutions dans un cadre global. Mmh. Et ça, c'est quand même un élément important.
Mmh. Et pourquoi, parce qu'il y a aussi l'Union européenne et certains pays de la région de Grand Lac qui appuient cette thèse et qui pensent que l'issue définitive de l'insécurité dans cette région devrait venir d'une solution régionale. Vous pensez qu'il faut absolument associer les pays voisins de la RDC dans le règlement de cette crise au Nord Kivu?
Oui, parce que quand on regarde en fait les causes, la façon dont la situation s'est détériorée depuis quelques années, notamment suite en fait à l'arrivée des réfugiés rwandais et notamment des anciens militaires en 96, donc on se rend compte qu'en fait les problèmes sont devenus, je dirais, régionaux. Donc il y a des problèmes spécifiques donc au Congo, mais quand on regarde la situation Nord Kivu, on constate que la présence des combattants des FDD, donc les combattants rwandais donc qui sont dans la région depuis une dizaine d'années, c'est une des sources de l'insécurité. Et on sait que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs où la tripartite plus le cadre de concertation des pays de la sous-région ont essayé d'analyser les problèmes. On pris des mesures en fait visant à mettre fin à la présence des groupes armés dans la sous-région, mais ces mesures, ces propositions ne sont pas appliquées. Donc je crois que il est temps maintenant qu'on profite de ces moments de trêve pour en fait essayer de mettre en œuvre en fait les solutions qui ont été proposées et dont on se demande pourquoi en fait elles ne sont pas appliquées. Or, plus elles ne sont pas appliquées, plus les conséquences sur les populations, comme celles qu'on constate maintenant, sont considérables. Donc je crois qu'il est temps que les différents acteurs essaient en fait de mettre en œuvre les résolutions déjà prises ou à prendre compte tenu de la situation.
Mais vous, monsieur le député national, Dieudonné Jacques Bakungu, vous ne semblez pas être d'accord avec une solution globale du problème, comme le souhaite l'ONG internationale, l'ICG, l'International Crisis Group, et puis soutenu par Pamphile Sebahara, qui est spécialiste en prévention et gestion des conflits, dans le groupe GRIP qui est basé à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que la solution militaire, encore que si plus elle prend du temps, est-ce que vous ne voyez pas que déjà ce que vivent les déplacés, 700 000 environ, avec des viols déjà signalés dans les camps, vous pensez que si on ne sait pas régler la question militairement dans un bref délai, vous ne pensez pas que la situation risque d'être comme le Darfour, comme le dit déjà, le compare déjà à l'Union européenne?
D'ailleurs, moi je soutiens toutes les solutions qui peuvent venir. Et notre ami de l'IDPS a dit que Kunda est un fils du pays. C'était bien que Jackson l'est aussi. Mais à un certain moment, Jackson a été traqué et neutralisé. C'est un fils du pays aussi. Le dernier ici, c'est M. Kasereka, qui a été, on a fait une pression sur lui, et Kasereka a abdiqué. Moi je pense, si cela, c'est possible pour cela, pourquoi pas pour Laurent Kunda? Moi je pense que notre frère...
Est-ce que vous pensez qu'ils ont les mêmes raisons pour lesquelles ils ont pris les armes, bon, Jackson et Laurent Kunda?
Les mêmes raisons, je ne pense pas qu'aujourd'hui on commence à donner les raisons, parce que si les raisons, on peut les étaler, je pense que tout le monde peut se mettre là et commencer à défendre sa propre cause.
Non, c'est parce que vous comparez, vous dites que...
Oui, je dis, parce qu'on
peut le faire aussi.
Oui, c'est que Jackson a porté les armes et le gouvernement, donc nos forces armées, plus la Monique, l'ont contré à ne pas prendre sa position. Il en est de même avec Kasereka. Si, aujourd'hui par exemple, comme il y a un autre frère qui dit que voilà, nous avions fait des promesses électorales à la population, c'était pour qu'on mette fin à cette situation-ci. Parce que pour nous, si Kunda continue à persister, c'est parce qu'il n'y avait pas une volonté politique et une volonté de mettre fin à cela.
Oui, mais qu'est-ce que vous dites de la solution globale qu'on propose?
Ouais.
D'un côté, il y a Kunda avec qui l'ICG, l'Union européenne, la communauté internationale en général, propose le dialogue avec Laurent Kunda, mais aussi en même temps aborder la question du retour des réfugiés congolais qui sont encore au Rwanda et dans d'autres pays étrangers, et la question des FDLR. Vous pensez qu'il faut cette solution globale, ou pour vous, c'est seulement Kunda, et puis c'est fini, il y a la paix au Nord Kivu?
Non, moi je pense que dire cela de cette façon, c'est un peu difficile. Il faut savoir qu'autour de ce problème, il y a notre population qui est en train de souffrir. Il y a notre population qui est en train de souffrir. Mais quand il y a des Congolais qui croient qu'on peut laisser quelqu'un continuer à mettre tout le monde mal à l'aise, à châter la population, à faire tout ce qu'il est en train de faire, qu'on lui donne le temps, qu'on dise que voilà, nous allons dialoguer, alors qu'il a eu le temps pour ce dialogue-là, qui a d'ailleurs donné naissance au mixage. Je pense que mon frère de l'UDPS, lorsqu'il dit, nous avions combattu le mixage. Mais qui peut être le meilleur avocat de soi-même? Je pense que c'est la personne elle-même. Laurent Kunda lui-même avait jugé ce mixage de faux. Laurent Kunda lui-même, celui qui a mis la trêve, c'était des bataillons qui étaient dans la même brigade mixée, qui se sont affrontés et qui a commencé cela. Moi, je pense que nos amis ne doivent pas se voiler la face si on a une position d'opposition. Non, je pense qu'on a droit d'être opposant, mais on n'a pas droit de prendre tout en s'opposant à tout, alors qu'en réalité, nous voulons la paix.
Ah, il est 19h50 à Kinshasa, une heure de plus à Likasi, c'est dans le Katanga. Claude Kianza a fait son entrée dans ce studio, c'est pour les réactions des auditeurs.
Vincent Barani de Bukavu dans le sud Kivu n'est pas du tout d'accord avec le gouvernement. Pour lui, c'est vrai qu'un Kunda est un insurgé, mais au moins, il protège les siens contre les FDLR, tandis que le gouvernement a abandonné les populations du Walungu au sud Kivu à la merci des FDLR. Dialoguer avec Nkunda, estime-t-il, c'est aussi encourager la lutte contre les FDLR. Sartre Mufanzala de Goma au nord Kivu pense que tant que Nkunda ne sera pas traqué, la paix restera toujours hypothétique au nord Kivu. Pour sa part, Makassi Janvier de Goma au nord Kivu toujours propose une solution négociée avec Nkunda. Pour lui, il est congolais, c'est-à-dire Nkunda, et il vit bien avec les habitants des Kichanga. Il est prêt pour le brassage, moyennant dialogue avec le gouvernement, conclut-il. Pour Kafoua Désiré de Manono Katanga, négocier avec Nkunda, c'est apprendre à tout le monde à revendiquer sa cause par les armes. De Rugari au nord Kivu ont eu lieu les derniers affrontements. Moutoupe et Jean pensent que la 8e région militaire ne dit toujours pas la réalité. Lors des derniers combats, estime-t-il, ce sont les FRDC qui ont provoqué les insurgés. Enfin, Luis Makonga de Routchour au nord Kivu pense que la politique menée au nord Kivu est dangereuse car on ne peut pas tuer par la faim ceux-là que l'on prétend défendre. Ceci en refusant un dialogue qui ne blesse personne. En effet, estime-t-elle, même les élections sont le fruit d'un dialogue. De même, la stabilité à l'est du pays doit être le fruit du dialogue.
Merci beaucoup, Claude Kianza. Nous commençons par vous, Ruben Mikindo, président fédéral de l'IDPS Goma. Vos réactions à toutes ces opinions et même des questions de nos auditeurs. Louise Makonga, par exemple, de Rutshuru au Nord Kivu, qui pense que la politique menée au Nord Kivu est dangereuse car on ne peut pas tuer par la faim, c'est la même qu'on prétend défendre. En refusant de dialoguer, refusant un dialogue qui ne blesse personne, en effet, estime-t-elle, même les élections sont le fruit d'un dialogue, de même, la stabilité à l'est du pays doit être le fruit du dialogue. Donc, bref, c'est pour le dialogue qu'intervient Louise Makonga de Rutshuru. Votre réponse aux réactions, Ruben Mikindo.
Je voulais réagir évidemment par rapport au propos de cet auditeur, mais en tout temps, si vous permettez, je voulais juste placer un mot par rapport à ce que disait tantôt l'honorable Bakungu.
Oui, allez-y, on est en train de parce qu'on t'en va aussi à la fin de l'émission.
Oui. La reddition des Jackson et Kassereka, je crois que les Jackson et Kassereka, ce sont des pires pourvus des FRDC, ce sont des gens qui ont toujours collaboré avec les FRDC. Et aujourd'hui, par exemple, la reddition de Kassereka se justifie par le simple fait que Kassereka a trompé les FDR parce qu'il a reçu de l'argent, comme ça c'est comme des fondateurs que vous pouvez prendre le conditionnel comme vous voulez, mais ce sont des fondateurs que nous détenons ici, il aurait perçu de l'argent, et FDC, il a promis qu'il va mener des opérations avec Nagana, il a échoué, et les FDR étaient sur le point de les capturer, c'est comme ça que Kassereka s'est rendu. Et entre autres, vous avez aussi le grand FDLR qui a été capturé à Nagana avec Galon et Brassard, la neuve, tout ça, ça met mal à l'aise le camp du gouvernement. Bon, enfin, je passe...
Oui, allez, répondez maintenant à Louise qui propose le dialogue. Oui.
Je crois que moi, je vous ai dit que je suis membre de l'IDPS, c'est parti qui a toujours formé la non-violence, et je crois fermement que c'est par le dialogue que nous allons sortir de ce bout du tunnel. On ne peut pas gérer un pays dans la belligérance, et surtout pour un pays conflit comme le Congo. Moi, je suis vraiment sidéré de voir que les Congolais, après une dizaine d'années, ça fait même plus de 15 ans, que nous vivons dans une guerre presque permanente, et qu'on puisse nous demander une fois de plus aujourd'hui, parce que Kunda a dit ceci, a dit cela, qu'on ne veut pas parler avec lui.
Oui.
Je voudrais donner même juste un petit exemple.
Par oui, mais vous n'avez pas tout le temps, hein, vous n'avez pas tout le temps. En quelques secondes.
Ouais.
En quelques secondes.
Où le président français, juste, il devait aller en Allemagne, il y avait des problèmes, alors qu'il n'y a pas de problème aussi majeur comme ici chez nous. Il a demandé à son gouvernement de maintenir des dialogues avec les partenaires sociaux.
Merci beaucoup, Ruben.
C'est des exemples qui doivent nous inspirer aussi au Congo, des dialogues.
Merci, merci Ruben. Merci Ruben. Ruben Mikindo, président fédéral de l'UDPS. Une autre question, on l'adresse à vous, Pamphile Seba Ara. Vous êtes spécialiste en prévention et gestion des conflits. Soyez concis parce qu'on tend vers la fin de cette émission. Il y a quatre fois Désiré de Manono Katanga. Pour lui, négocier avec Kunda, c'est apprendre à tout le monde à revendiquer sa cause par les armes. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, on peut voir les choses comme ça, mais je pense qu'on doit être nuancé. Parce que ce que dure la situation, la dissidence, c'est vrai, dans un État où le pouvoir, le gouvernement à la légitimité des élections pose problème. Mais il y a quelque part les revendications que le mouvement de Laurent Kunda pose, et il appartient, me semble-t-il, aux politiques de voir est-ce que ces revendications sont fondées ou pas. Donc si ces revendications, en tout cas, ou certaines d'entre elles sont fondées, donc il est important que les solutions soient trouvées sur le plan politique et non sur le plan militaire. Donc, je crois qu'on est dans une situation difficile parce qu'il y a la souffrance des gens et des populations. Et ce n'est pas étonnant, en fait, si les réactions des populations sur place disent qu'il faut un dialogue, c'est parce qu'ils se rendent compte que l'option militaire, même si elle peut permettre, disons, de vaincre des insurgés, du moins provisoirement, mais les conséquences à payer pour les populations sont considérables.
Merci.
Donc là, je crois qu'il y a un défi à relever pour trouver des solutions plutôt politiques parce que l'option militaire n'est que provisoire.
Ok. Une autre question, c'est celle de Sartre Moufanzala de Goma au Nord Kivu. Pour lui, tant que Laurent Kunda ne sera pas traqué, la paix sera toujours hypothétique au Nord Kivu. Monsieur le député national, Jacques Bakongo du PPRD.
En tout cas, je pense que...
Vous avez une minute.
Mon frère de l'IDPS ne dira pas que le pasteur met la guerre, mais je vais...
Là, c'est le député national, quand même.
Oui, oui, je suis député national, mais j'ai dit qu'il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Lorsque quelqu'un a pris les armes, il faut qu'on arrive à faire la pression qu'on fait partout pour que cette personne-là ne se prenne pas comme un intouchable. Vous vous rappelez, lorsque on a arrêté Thomas Luba, lorsqu'on a arrêté Katanga, tout cela s'est trouvé sur un mandat de la communauté internationale. Maintenant, on se pose la question, pourquoi la même personne qui est lui aussi figé par ce mandat-là, qu'on lui prépare des dialogues, qu'on lui prépare un endroit d'asile, des choses comme ça, c'est là où ça ne marche pas. Moi, je pense que si Kunda a une cause, mais quand même, il y a des accusations, il y a des condamnations sur quoi il doit répondre. Et je pense qu'on ne doit pas faire des choses comme si c'était de la blague, des fanatiques, on aime tel, on n'aime pas tel.
Oui, j'enchaîne parce que vous avez la parole. Ouais. Il y a Vincent Baharani, voilà, j'arrive. Ouais. Il est de Bukavu dans le sud Kivu, ouais. Lui, il dit, oui, Kunda, c'est un insurgé, mais pourquoi ne pas s'attaquer au FDLR? Qui, à Walungu, dans le sud Kivu aussi, ils sèment l'insécurité.
Moi, je pense que vous avez l'information qu'au sud Kivu, il y a eu ces attaques contre les FDLR. Et nous avions dit, comment, pour attaquer les FDLR, vous allez les attaquer pour les disperser dans les forêts du Congo? Ce sont les députés qui ont refusé, qui ont dit, si vous voulez attaquer les FDLR, vous devez les orienter vers leur pays d'origine. Soit vous les cherchez en pays d'asile, soit ils rentrent dans leur pays, au lieu de compliquer toujours la situation de nos populations. Moi, je pense que les FARDC et la MONUC avaient commencé par traquer les FDLR. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit que ce ne semble pas être la mission de Laurent Kunda. Laurent Kunda ne doit pas avoir la mission de traquer les FDLR, mais c'est une mission qu'on doit confier et à la RDC et à la MONUC.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député national, Dieudonné Jacques Bakongo. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Dialogue congolais à la technique Jean-Claude Nsiala, Nadine Foulette à la réalisation, Claude Kianza a préparé pour vous cette émission. Merci aussi à Jules Ngala, notre confrère de Radio Kapigoma, et à vous tous de nous avoir suivis.